Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les amyloses cardiaques et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Lérez. Professeur Lérez, bonjour.
Bonjour.
Professeur Lérez, vous êtes cardiologue, médecin nucléaire, professeur des universités à la faculté de médecine de Toulouse et praticien hospitalier au sein du service de cardiologie du CHU de Toulouse. Alors aujourd'hui, professeur Lérez, nous allons aborder l'évaluation et le bilan des amyloses cardiaques. Ma première question concerne finalement les premières choses à faire en cas de doute. Quel bilan prescrire quand on a une suspicion clinique d'amylose cardiaque chez un patient ?
Alors sur les examens complémentaires à prescrire, j'aurais tendance à commencer par des choses simples et accessibles à tous, telles que la biologie, avec notamment le NT-proBNP et la troponine, qui sont des biomarqueurs souvent ascensionnés dans l'amylose cardiaque, et notamment une forte ascension du BNP qui est discordant avec la clinique, et puis parfois l'ascension de la troponine qui montre la lyse cellulaire qui accompagne l'infiltration. Le deuxième examen relativement classique est l'électrocardiogramme qui restera aspécifique et qui pourra montrer des petites choses avec de l'arythmie qui est très fréquente et notamment de la fibrillation atriale, des troubles de la conduction, notamment auriculo-ventriculaire, et puis du microvoltage qui est relativement classique mais tardif dans la maladie. Et puis ensuite, il y a quelque chose de très accessible qui est l'échocardiographie. Et l'échocardiographie sera elle aussi aspécifique, mais pourra amener beaucoup d'arguments pour suspecter la maladie. Donc la première chose, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche et les troubles de la diastole, qui, je vous le disais, sont très aspécifiques. Et des choses peut-être plus spécifiques que vont être l'altération des paramètres de déformation qui vont prédominer sur la base du ventricule gauche, l'hypertrophie du ventricule droit, qui doit nous faire suspecter un processus infiltratif, la dilatation franche des massifs atriaux qui accompagne une dysfonction diastolique franche, tout en sachant que ces signes ne sont pas systématiques, et c'est le cumul des arguments qui doit nous amener à suspecter l'amylose cardiaque.
Et une fois qu'on a passé cette première étape, quels examens réaliser pour confirmer le diagnostic cette fois ?
Alors, il y a deux examens essentiels, un biologique et l'autre qui est scintigraphique. Et je commencerai par la biologie en disant que l'essentiel, selon moi, est de rechercher une gammapathie monoclonale par la réalisation d'une immunoélectrophorèse des protéines sériques et urinaires et d'un dosage des chaînes légères libres sériques. Car en présence d'une gammapathie monoclonale, il faudra alors s'orienter vers une biopsie pour prouver l'infiltration. Et cette biopsie, en général, sera extracardiaque dans un premier temps, et pourquoi pas cardiaque si la biopsie extracardiaque n'est pas concluante. Je dirais que ensuite, l'examen central est la scintigraphie osseuse, qui, si elle retrouve une fixation cardiaque du traceur osseux, confirme l'amylose. Et dans ces cas-là, en l'absence de gammapathie monoclonale, eh bien, il s'agit d'une amylose à transthyrétine. Et en présence d'une gammapathie monoclonale, comme je le disais précédemment, il faudra du coup aller à la biopsie. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à commencer par la biologie à la recherche d'une gammapathie monoclonale.
Alors, professeur Lérez, vous n'avez pas abordé l'IRM cardiaque. Comment est-ce que vous positionnez cet examen dans cette démarche diagnostique des amyloses cardiaques ?
Oui, vous avez raison de le souligner. Pourtant, c'est un excellent examen et je n'écarte pas la place de l'IRM cardiaque dans l'arsenal diagnostique du cardiologue. Je pense que c'est un bon examen pour explorer une cardiopathie en l'absence d'orientation étiologique. L'idée ici est de dire que finalement, on a souvent beaucoup de preuves en l'absence d'IRM et j'aurais tendance à ne pas attendre l'IRM pour suspecter l'amylose et d'aller directement à la scintigraphie osseuse et, je vous le disais, à la recherche d'une gammapathie monoclonale, car si le tableau clinique s'y prête, en l'absence d'une gammapathie monoclonale, eh bien, j'irai réaliser une biopsie même en l'absence d'IRM. Ceci étant, l'IRM est un excellent examen avec une très bonne corrélation entre le rehaussement tardif et les dépôts de fibrilles amyloïdes au sein du myocarde et souvent l'IRM ne vient que confirmer une forte suspicion, on l'a vu, clinique et paraclinique sur les données biologiques, électrocardiographiques et échocardiographiques.
Alors, professeur Lérez, vous avez abordé plusieurs fois la scintigraphie osseuse. Alors, c'est peut-être une question de béotien, mais pourquoi réaliser une scintigraphie osseuse pour un diagnostic de cardiopathie ?
Oui, alors c'est tout à fait surprenant et la question est intéressante puisque l'histoire de cet examen dans cette pathologie est assez surprenante. Les premières descriptions de la fixation tissulaire du traceur osseux remonte aux années 70, où on s'est aperçu sur quelques cas rapportés qu'il existait une fixation des tissus mous et notamment musculaires du traceur osseux. Puis dans le début des années 80, on s'est aperçu que le cœur pouvait fixer le traceur osseux, ce qui est tout à fait surprenant. On s'est aperçu alors que cette fixation du traceur osseux correspondait à des amyloses cardiaques. Et la problématique, c'est que finalement, cet examen a été validé qu'aux alentours de 2015. Et durant toutes ces années, il a été peu utilisé, étant donné qu'il était souvent discordant avec des fois des fixations cardiaques, des fois l'absence de fixation cardiaque. Ce n'est que dans les années, je vous le disais, 2010-2015, qu'on s'est aperçu qu'en fait, la fixation cardiaque était systématique en cas d'amylose cardiaque à transthyrétine. Elle n'était jamais présente en l'absence d'amylose cardiaque et elle était inconstante en présence d'une amylose cardiaque à chaîne légère. Et c'est pourquoi j'insistais précédemment sur la recherche d'une gammapathie monoclonale, car en présence d'une gammapathie monoclonale et en l'absence de fixation cardiaque du traceur osseux, cela ne permet pas d'exclure une amylose à chaîne légère et requiert donc le recours à la biopsie.
Alors, on arrive à la fin de notre entretien, professeur Lérez. Une fois le diagnostic d'amylose cette fois-ci établi et l'origine identifiée, quels sont les examens de suivi à réaliser pour ces patients ?
Alors, je pense que avant les examens, bien évidemment, c'est un suivi clinique. Les symptômes comptent énormément et le ressenti du patient sur sa pathologie compte énormément. Ensuite, sur les examens de suivi, le premier et le plus simple, c'est peut-être le BNP qui a une importante valeur pronostique. Et puis, encore une fois, des examens simples tels que l'électrocardiogramme qui va notamment nous permettre de dépister la survenue d'éventuels troubles du rythme supraventriculaire qui nécessiteront la mise en place d'une anticoagulation et qui sont extrêmement fréquents. Mais également la survenue de troubles de la conduction qui nécessiteront d'être vigilants quant à la nécessité de mise en place d'un stimulateur cardiaque en prévention primaire, par exemple. On sait également que ces cardiopathies peuvent faire des troubles du rythme ventriculaire. Donc, une surveillance rythmique par l'électrocardiogramme, voire le Holter, est indispensable. Et puis ensuite, comme tout cardiologue, je suis mes patients sur l'échocardiographie et l'évolution notamment des paramètres de déformation et de la fraction d'éjection, qui sont des paramètres simples, et puis des pressions de remplissage, notamment par l'évaluation des pressions artérielles pulmonaires. Ensuite, j'aurais tendance à dire qu'un suivi qui peut être tout à fait intéressant, notamment avec l'arrivée des nouvelles thérapeutiques, va être l'IRM cardiaque, qui permet, outre l'aspect morphologique, de suivre la charge amyloïde, et donc qui est un excellent examen pour potentiellement monitorer, si je puis me permettre l'expression, l'efficacité du traitement. Alors, vous remarquerez que je n'ai pas cité la scintigraphie, car la scintigraphie, pour le coup, si elle a une place dans l'arsenal diagnostique et au moment du diagnostic de la cardiopathie, voire de son typage, puisqu'on l'a vu, elle pouvait orienter vers une amylose à transthyrétine, la scintigraphie n'a pas de place dans le suivi.
Eh bien, merci infiniment, professeur Lérez, de nous avoir éclairé sur les amyloses cardiaques. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.